La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et ce soir, et puisque nous sommes le lendemain du 1er décembre et que c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons reçu l'association AIDS. Alors AIDS, hein, on vous rappelle que c'est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Sarah s'est entretenue un peu plus tôt dans la semaine avec Florian, président de AIDS pour les Pays de la Loire, et Marion, salarié de l'association. En fin d'émission, ça sera avec une petite journée de décalage la chronique d'Amandine qui nous parle procrastination, et je vous propose qu'on commence sans plus tarder.
Hier, nous étions le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. AIDS, A-I-D-E-S, est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. AIDS, c'est d'abord Daniel Defer, dont le compagnon, Michel Foucault, décède d'une maladie liée au sida. Alors Daniel, sociologue, crée l'association en 84. Reconnue d'utilité publique, AIDS se bat pour réduire les contaminations, pour un accompagnement aux soins, pour une défense des droits et contre les discriminations. Nous sommes aujourd'hui avec Florian et Marion de AIDS Angers. Bonjour à vous et merci d'être là.
Bonjour, merci.
Florian, tu es président de l'association, Marion salarié. Quels sont vos rôles respectifs et vos missions au sein de AIDS?
Alors, je vais commencer. Donc effectivement, Florian, je suis président, alors de pas de l'asso dans son ensemble, hein, juste de la région Pays de la Loire. Donc est parti à Angers. Ma mission, c'est un rôle plutôt politique en fait dans l'association, c'est-à-dire de définition des priorités de la région, voilà, vers quel public on va, vers quelles actions on met en place en priorité, un rôle aussi de mobilisation auprès des militants, voilà, et puis un rôle de coordination, on va dire, dans son ensemble de tous les acteurs, de tous les militants de l'association sur la région.
Voilà. Alors je suis salariée, moi, donc animatrice d'action au local de Angers. Sur tout ce qui est stratégie, comme l'a dit Florian, c'est le rôle des élus, de donner un peu la direction des actions de l'association. Et nous salariés, on est plusieurs au local, on est trois en tout. On fait en sorte que toutes les actions définies par les élus soient faites auprès de nos publics.
Depuis combien de temps est-ce que vous êtes respectivement engagés dans l'association, et surtout quand est-ce qu'il vous a semblé, à vous personnellement, important de militer dans cette lutte?
Moi, ça fait 3 ans que je suis salarié de l'association. Alors, salarié de l'association, ça veut dire aussi militant. On est tous militants de l'association. Donc, on milite pour la lutte contre les discriminations, ce que tu as un peu dit dans la présentation, et c'est l'épidémie du VIH en faisant du dépistage rapide VIH et hépatite C auprès du public cible de l'association.
Et quand est-ce que vous avez eu ce déclic, cette envie de vous engager?
Ah bah, alors, je vais prendre la suite. Alors moi, je suis dans l'asso depuis 8 ans. Voilà, et le déclic, ça a été effectivement... en fait, j'ai participé à une action en tant que personne accueillie, une action de... Il y avait des dépistages. J'ai pas pu être dépisté ce jour-là. Et on m'a dit, bah, reviens nous voir sur un second temps. Et finalement, je suis revenu dépisté et j'en suis jamais reparti. Je suis resté parce qu'il m'a semblé effectivement que la lutte contre le VIH, l'accompagnement des personnes séropositives, des personnes les plus vulnérables au VIH, la lutte aussi contre toutes les inégalités, hein, d'accès aux soins, d'accès aux droits pour les personnes, m'ont interpellé en fait, et je me suis dit je vais creuser la question, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de travail à faire encore, voilà. Et donc ça, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans, il y avait des nouvelles formes aussi de prise de risque, hein, qui commençaient à arriver, et je me suis retrouvé aussi... voilà, là-dedans, je me suis retrouvé aussi dans les publics qu'on accompagnait.
On rappelle quelques chiffres. 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde en 2018. 2 millions de personnes par an sont contaminées. Au-delà de ces chiffres, pourquoi est-ce que, selon vous, le VIH reste un tabou et un virus peu connu dans son fonctionnement, finalement, d'où les discriminations envers les personnes qui vivent avec et la sérophobie?
Je pense que déjà, les discriminations vers les personnes est déjà un gros point, en fait, qui fait que l'épidémie elle continue aussi à progresser, que les personnes discriminées ou stigmatisées, en tout cas, s'éloignent du soin, justement de peur d'être jugées, de peur d'être stigmatisées encore plus, en fait. Après, l'histoire du VIH, en fait, est liée depuis le départ, avec un tabou sur la sexualité aussi. Qui n'a pas forcément bougé encore aujourd'hui, hein, même si effectivement la société a évolué, la sexualité est moins taboue, mais elle reste quand même taboue dans les populations, de la part des personnes, mais aussi au sein même des communautés aussi. Hein, les personnes d'origine étrangère aussi, la sexualité, elle reste taboue aussi. Et donc c'est pour ça que je pense que le regard ne change pas beaucoup.
Et Ed, ce sont aussi des militants et militantes qui luttent contre toute forme de discrimination. On va revenir sur la campagne nationale qui vient de sortir. Mais avant de parler de la campagne, quelle place justement ont les discriminations dans la réalité du virus du VIH? Et je parle là de toute forme de discrimination, pas forcément de sérophobie justement.
Bah c'est comme l'a dit Florian, c'est les discriminations en fonction du genre de la personne, de son orientation sexuelle, de ses origines, accentuent les vulnérabilités de ces personnes-là pour prendre soin d'elles, de leur sexualité. Je ne l'ai pas dit aussi, mais sur les pratiques aussi des personnes, que ce soit le travail du sexe, l'usage de certaines drogues. Donc l'association vraiment milite pour que ces personnes-là, dans leur prise de risque, le fassent en ayant en tête qu'ils peuvent se protéger, eux, du VIH et d'autres hépatites virales. Donc c'est vraiment ça notre travail, de réduire les risques de ces personnes qui sont vulnérables, et de leur offrir à disposition tout ce matériel de réduction des risques.
La campagne vient de sortir, elle s'intitule « Pourtant je m'appelle » et donne la parole en vidéo à Fatou, Erwan, Eric, Karine et Jonathan pour mettre des visages sur 5 groupes de personnes victimes de discrimination, à savoir personnes migrantes, personnes vivant avec le VIH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, travailleuses du sexe et usagères de drogue. Qu'est-ce qui change dans cette campagne particulièrement?
Alors après, cette campagne du 1er décembre pour 2020, elle reprend quand même, elle reprend les couleurs, elle reprend un petit peu les concepts de certaines anciennes campagnes de haine, en fait, où on montre vraiment les visages, les personnes. Ce qui change, je pense pas qu'il y a des choses qui changent dans la campagne, en tout cas on essaie de faire changer les regards de la société sur les personnes qui sont discriminées et qui sont vulnérables au VIH et aux hépatites. Elle change peut-être si on peut dire qu'elle change, elle change aussi par le discours, en fait, ou par les mots qui sont marqués. C'est vrai qu'on a des insultes, en fait, qui sont écrites sur l'affiche, des insultes qui sont courantes, hein, et on entend ça tous les jours dans la vie quotidienne. Ça participe au fait que les personnes se sentent aussi rejetées par la société. Et pourtant, c'est la campagne comme ça, et pourtant ces personnes s'appellent, elles ont un prénom en fait.
Pourquoi c'est important de ne pas seulement travailler pour les personnes concernées, mais aussi avec les personnes concernées et justement, c'est ce que vous disiez, de leur donner un visage, en fait.
C'est toute la démarche communautaire de l'association, c'est d'intégrer les personnes dans la prévention, de quoi elles ont besoin. C'est elles qui sont le plus à même de nous dire.
Sur votre site, on peut lire, sur le site de Aide, oui, on peut lire quelques témoignages, notamment celui de Anna, militante, qui raconte ce qu'une personne usagère de drogue et positive au VIH a entendu de la part du personnel hospitalier. Je cite, « Bah écoute, on n'a pas le temps, tous les médecins sont réquisitionnés, t'avais qu'à pas te shooter. » Ou encore celui de Ludivine, travailleuse du sexe, qui évoque sa non-légitimité à avoir accès aux soins. Vous vous battez aussi pour ça, pour un accès aux soins et pour simplement la reconnaissance et la dignité des êtres humains ?
Oui, bien sûr, effectivement, on lutte aussi pour que chaque personne ait accès aux soins de la même façon, et on lutte aussi pour que les discriminations qui sont de la part de la société dans son ensemble et aussi de la part de certains soignants, et donc les témoignages leur en font écho, hein. C'est d'autant plus important de lutter justement contre ce genre de discrimination au sein même des soignants aussi, parce que ça éloigne encore plus les personnes du soin. Après, je voulais aussi rajouter que la discrimination, elle fait partie de la société, mais elle est aussi institutionnalisée parfois. C'est-à-dire qu'on a des lois, des lois répressives par exemple sur la consommation des drogues. Qui fait aussi le lit de l'épidémie. C'est une façon aussi de rejeter en fait légalement des personnes qui consomment des produits, qui leur travail en fait c'est le travail du sexe aussi. Des lois répressives sur le droit des étrangers, par exemple, le droit du territoire, le droit des étrangers aussi, qui est assez répressif en tout cas. On n'est pas assez dans l'accompagnement des personnes vis-à-vis de leur situation, voilà, et dans l'accompagnement et dans la prise en compte de ce qu'elles sont dans leur globalité et dans leur santé.
Justement, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui en France pour les demandeurs et demandeuses d'asile atteintes du VIH ? Quels sont leurs droits et dans quelle mesure, vous aussi, est-ce que vous êtes capable de les accompagner ?
Il y a au sein de l'association un service plaidoyer qui travaille sur ces questions-là, les droits des étrangers malades qui sans cesse milite pour faire évoluer l'accès au titre de séjour pour soins des personnes étrangères. La loi évolue, ça évolue sans cesse, donc c'est très compliqué à suivre. Mais l'association est aussi là pour faire cet accompagnement-là. On accompagne les personnes dans leur démarche, on les oriente aussi dans les structures d'aide pour demandeurs d'asile. Mais l'association aussi milite pour les droits des étrangers malades par des campagnes aussi, des appels aux dons. Et ça s'inscrit vraiment dans les actions de l'association au national, mais aussi localement par de l'accompagnement personnel des personnes, individuel des personnes.
Quelles conséquences a le Covid-19 sur les personnes les plus touchées par le VIH et par ces discriminations dont on a parlé ? Est-ce que vous avez pu constater des choses en ce moment ?
Alors, oui. Il y a le cinquième rapport de discrimination de F qui est sorti récemment, justement à l'occasion du 1er décembre, où il y a une place qui est importante sur l'impact justement de la crise Covid. Sur les vulnérabilités des personnes. Et vous avez cité un exemple, un témoignage tout à l'heure de ça aussi. On constate quand même que la crise a augmenté les vulnérabilités des personnes. Alors après, chaque personne est différente, mais on peut constater par exemple de l'isolement supplémentaire des personnes séropositives, des difficultés financières aussi, et une précarité plus importante, par exemple des personnes travailleurs et travailleuses du sexe, sur les personnes migrantes aussi, les personnes qui sont en demande de type de séjour, par exemple, ou qui sont en situation régulière sur le territoire, la crise augmente forcément leur vulnérabilité, leur précarité. Donc voilà, on a vraiment un contexte d'augmentation des difficultés des personnes et des vulnérabilités, hein, les personnes consommatrices aussi de drogue, puisqu'elles ne peuvent plus sortir, ou en cas le fait de se fournir, c'est difficile aussi. Voilà, il y a toute leur vie, en fait, toute leur vie est bousculée, et toutes leurs habitudes, hein, même ici, et voilà, à tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui étaient déjà vulnérables au VIH et aux hépatites. La crise n'a fait que renforcer ces vulnérabilités.
Pendant le confinement et avec le contexte actuel, est-ce que vous arrivez à rester en contact avec les personnes concernées, à mener des actions? Je crois qu'il est possible d'envoyer des autotests, par exemple, par voie postale. Comment est-ce que vous arrivez à rester présent et présente?
Alors, on communique auprès de nos partenaires, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, l'association a une page Facebook Aide en V, sur laquelle est communiqué l'adresse mail, le numéro de téléphone. Donc, on reste joignable. Les personnes qui ont besoin de faire un test, on leur envoie un autotest à domicile avec du matériel de réduction des risques si elles le souhaitent. Là, sur ce deuxième confinement, le local est encore est accessible. Donc, les personnes qui souhaitent venir faire un test et récupérer du matériel peuvent se rendre jusqu'au local.
Quel est le rôle des bénévoles au sein de l'association et comment s'y investir ?
La mobilisation dans l'association, c'est dans toutes nos actions. Le fait de, sur chaque action, parler aux personnes de l'association, leur expliquer ce qu'on y fait. Si la personne est intéressée pour participer et venir militer à l'association, c'est possible. Et c'est pas exactement la même chose que peut faire ce que moi, animatrice salariée de l'association, fais au quotidien. Avec, elle met à disposition le temps qu'elle a, dont elle dispose, avec ses connaissances aussi, c'est de se dire, on est tous militants de l'association, qu'on soit salarié, élu ou volontaire de l'association.
Donc là, je rappelle que c'est la campagne nationale. Comment est-ce qu'on fait pour faire un don?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur la page de Aide, hein, sur internet, aide.org, donc aides.org, et vous allez avoir tout de suite un petit encart don, et vous allez donner facilement là-dessus. Après, il y a des bannières qui tournent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, vous cliquez et ça vous redirige directement sur la page de don. Voilà, le don est à convenance de chacun. Voilà.
Avant qu'on termine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un dernier mot qui vous semble important?
Bah, donner et puis militer avec nous, pour les personnes qui se reconnaissent dans les luttes VIH, accès aux soins et accompagnement des personnes les plus vulnérables au VIH et aux hépatites.
On m'appelle parfois la folle, pourtant je m'appelle Eric.
On m'appelle parfois le séropos, je m'appelle Erwan.
Certains m'appellent la négresse. Je m'appelle Fatou.
On m'appelle parfois le toxicou. Je m'appelle Jonathan.
Certains m'appellent la traînée. D'autres la pute. Pourtant, je m'appelle Karine. Le VIH m'atteint. Certains m'enfoncent. Avec aide, je me relève.
Thank you.
De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, toujours dans la Covidienne. À l'instant, c'était Lover's Bridge de Jimmy Tenor. On approche tranquillement de la fin de cette émission, mais il nous reste le temps d'écouter la chronique d'Amandine qui nous parle ce soir de procrastination. On écoute ça tout de suite.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. Figurez-vous que ça fait une semaine que je me dis que je dois écrire cette chronique. Ah oui, parce que tous les jours depuis 7 jours, le soir venu, bien emmitouflé dans ma couette, et mon train du sommeil que j'entends arriver au loin, eh ben je prononce cette phrase. Bon, je le ferai demain. À cette phrase, je crois que c'est celle que je prononce le plus dans ma vie. Car franchement, tous les jours, je trouve quelque chose à repousser au lendemain. Et ça s'appelle la procrastination. Alors qu'est-ce que c'est en fait la procrastination ? Eh bien c'est le fait de repousser au lendemain une chose que l'on pouvait faire le jour même. Alors aujourd'hui, on utilise quand même beaucoup ce mot pour se faire culpabiliser de ne pas être assez productive. Il y a quelque chose d'assez culpabilisant de se dire « Mince, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui !» Et en parallèle, beaucoup pensent que la procrastination est synonyme de flemme, alors que pas du tout! Parce que la procrastination, à la base de la base, provient du latin « procrastinare », qui veut dire « repousser par sagesse ». Est-ce que c'est pas beau de repousser quelque chose dans le but de prendre de la maturité dans sa réflexion et de mieux s'y préparer ? Ce que je vous propose, c'est qu'on garde ça en tête et qu'on arrête de culpabiliser parce qu'on procrastine. Et je vais même vous donner quelques conseils issus du livre « La procrastination structurée » du philosophe britannique John Perry. Alors pour lui, la procrastination structurée, c'est l'art de mettre à profit sa procrastination dans le sens où, quand on repousse une échéance, on ne fait pas rien à la place. On fait quelque chose qui n'a rien à voir, certes, mais on fait quand même quelque chose qui va nous servir pour plus tard. Bon, par exemple, cette semaine, moi j'ai trouvé plein de trucs à faire pour pas écrire. J'ai nettoyé mon frigo, j'ai fait du tri, j'ai passé la serpillière, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai mis à jour mon CV, j'ai fait mes courses, j'ai même fabriqué un griffoir pour mon chat avec des rouleaux de papier toilette. Et au bout de 7 jours, quand je me suis rendu compte que l'échéance était très très proche, bah j'ai plus le choix. Alors j'ai écrit. Et tout ce que j'ai fait cette semaine, et bah j'aurais pas besoin de le faire la semaine suivante, donc j'ai gagné du temps en le repoussant. Je sais que ça peut paraître angoissant de se laisser emporter par la procrastination et de pas se forcer à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Mais pourquoi les gens qui procrastinent, procrastinent ? Alors toujours selon John Perry, en fait ces personnes ont en elles un certain désir de perfection. C'est-à-dire qu'elles veulent tellement bien faire qu'elles ont peur de faire. Et surtout de faire mal. Alors repousser les choses par peur, ça fait que plus l'échéance approche, moins on a le temps pour bien faire, et si on a moins de temps, eh bien on peut pas forcément se relire et écrire ce qui va pas, etc. Donc forcément, on fait moins bien par rapport à ce dont on est capable. Et c'est tout le paradoxe. On repousse parce qu'on a peur de pas faire assez bien, et puisqu'on a trop repoussé, on n'a plus le temps de bien faire, donc on fait moins bien, et on culpabilise, ce qui va nous pousser à procrastiner la prochaine fois. C'est génial! Mais rassurez-vous, il est possible d'y remédier. Tout simplement en acceptant que vous n'allez pas faire aussi bien que vous l'espériez. Il faut sortir de son fantasme de perfection et accepter que ce n'est qu'un fantasme, que vous n'allez pas être au maximum de vos capacités, et que c'est pas grave en fait, on s'en fiche. Je sais que c'est facile à dire, mais une fois qu'on a réussi ça, et bah franchement, on peut laver ses vitres en toute quiétude. Et ça fait du bien. Autre conseil, si vous êtes friande de to-do list et de post-it, n'hésitez pas à vous donner des tâches ultra simples à faire pour avoir la satisfaction de barrer quelque chose dessus. Par exemple, sortir du lit, s'habiller, se préparer à manger. Sinon, vous pouvez aussi opter pour la solution que j'utilise. Vous vous faites 15 listes de choses à faire. Et il y en a tellement que forcément, bah, vous n'allez pas tout faire. Donc vous piochez ce qui est à votre portée pour la journée. Et puis le reste, bah, on s'en fiche. Vous pouvez renouveler vos listes autant que vous voulez. Et de toute façon, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ça, c'était pas si important, que ça, vous pouvez le déléguer, et que ça, bon, finalement, non, c'était pas une si bonne idée que ça. Dernière chose, dernier conseil, John Perry, dans son étude, remarquait que les personnes qui procrastinent ont tendance à avoir une organisation dite horizontale. C'est-à-dire que les papiers qui s'accumulent en pile, bah, c'est pas franchement leur truc. Ça fait qu'on oublie ce qu'il y avait tout en dessous. Alors si vous avez besoin de vous étaler sur toute votre table pour visuellement avoir une vue d'ensemble, faites-le. Chaque personne fonctionne différemment pour s'organiser dans sa vie et dans sa tête, alors n'hésitez pas à tester et trouver votre propre méthode d'organisation. Sur ce, je dois boucler cette chronique pour aller m'enregistrer dans mes toilettes, car je m'enregistre toujours chez moi. Donc prenez soin de vous, procrastinez tant que vous voulez et étalez vos papiers partout, ça vous fera du bien. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup Amandine pour cette chronique. Quant à nous, il va être l'heure de nous quitter. Une soirée bien chargée vous attend sur les ondes de Radio Campus. Dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver le coureur de funk suivi du grand retour de Ta Gueule Coubertin qui nous parleront notamment du défi 24 heures. Suite à ça, ça sera votre soirée bien classique du mercredi rap hip-hop. Très belle soirée sur nos ondes. On se retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine.